Now recording.
Now recording. Et on est de retour sur Meske Un Talk, les amis. On a pris une petite pause depuis pas mal de temps. Ça fait 2-3 semaines. Beaucoup de choses sont passées côté Barça. Aujourd'hui, on va en parler avec Gurvan et Médard. Bienvenue les frères. J'espère que vous allez bien.
Ça va. Écoute. Et toi?
Vous m'entendez bien? Tout se passe bien? Ouais, ça va super. Merci. Bah, c'est bon, on va pas faire semblant. On se parle depuis maintenant plus de 25 minutes. On va pas faire semblant.
Non, c'est faux. Ça va, Gurvan? Ça va.
Bon, aujourd'hui, petite émission spéciale, une émission qui sera pas comme les autres. On va pas aborder un thème, on va parler plutôt Barça. On va essayer de faire une petite conversation entre potes, voir un peu, parce qu'on lit quand même pas mal de choses sur les réseaux, on voit pas mal de choses. Et pourquoi pas sur une petite discussion comme ça, pas sur un thème précis, ou du moins, peut-être, hein, on va peut-être parler un peu de Xavi et un peu ce manque de le manque de confiance de la communauté Barça envers Xavi. En vrai, moi, c'est de mon point de vue, Xavi me perd un petit peu et je vois que beaucoup de gens commencent à être un peu perdus des décisions, des choix que Xavi peut entreprendre. Médard et Gurvan, chez nous, bah, on en parle depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans que Xavi a signé au Barça quand même. Mabrouk Erlik. Et Mabrouk Erlik Hedek, voilà, machallah. Ça fait 2 ans. Il est bien. C'est vrai qu'on était très enthousiasmés d'avoir Xavi parce que c'est quelqu'un qui connaît la maison. Puis maintenant, si on fait on va pas faire une rétrospective de ces 2 ans, parce que c'est difficile à juger les 2 ans de Xavi au Barça, mais vous retenez quoi là? Parce que c'est vrai que je pense qu'il prend un peu en maturité, on le voit sur certaines décisions, mais il reste quand même assez frileux. Qu'est-ce que t'en penses toi, Gurvan?
Déjà bonjour tout le monde, ça fait plaisir de retrouver l'émission, de vous retrouver les gars, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis partagé, je suis mitigé, Il m'a fait vivre des émotions très positives la saison dernière. Ouais. J'étais relativement tolérant comme beaucoup, parce qu'on connaît le chantier de reconstruction, tout ça, il n'y a pas de problème. Il avait un jeu très pragmatique qui nous a amené à la victoire auquel on n'est pas forcément habitué, parce que nous, c'est plutôt le jeu qui amène le résultat. Là, c'était plus les résultats avant tout. C'était l'objectif du président qui voulait absolument remporter des trophées majeurs. C'était réalisé. Sauf que cette saison, il a reconnu que l'année dernière, il était pragmatique. Il a dit, cette saison, place au jeu. Donc, nos exigences augmentent en conséquence. Ouais. Ça va de soi, c'est logique. On a un recrutement très cohérent qui nous permet de s'emballer un petit peu, peut-être trop, comme chaque été, de toute façon, à chaque fois. Mais on oublie qu'à chaque fois, un mois et demi, 2 mois après, on a des blessures qui font que on voit jamais le 11 au complet. Enfin, c'est compliqué. On a vu des choses intéressantes sur ce début de saison, mais là, on est rattrapé par des démons, un manque de confiance dans le jeu. Je vais pas te mentir, je prends très peu de plaisir à voir, à analyser ce Barça. Je retrouve pas, tu sais, cette confiance que j'ai pu avoir depuis un temps. Ça date, hein, l'époque de Pep, mais où les joueurs rentraient sur le terrain, tu savais déjà qu'on allait gagner, tu savais qu'on allait avoir la maîtrise.
Bah, c'est ça, tu savais que quelque chose allait se passer et que t'allais prendre ton pied devant le match, quoi.
Voilà, et ça tenait pas qu'à Messi, tu vois, parce que beaucoup vont réduire, oui, le Barça, c'est Messi, certes, très grand joueur, il n'y a pas de souci, il nous a sauvés moult fois, aucun problème pour l'admettre, mais il n'y avait pas que Messi, tu vois, mais aujourd'hui, je sens qu'on a perdu une certaine sérénité, même Araujo, qui, bon, il joue pas forcément à son poste, mais je trouve qu'il, très bon, toujours très bon, mais il respire moins la sérénité que fut un temps.
Tu trouves?
Je sais pas. Ouais, je trouve que je sais pas, je vois des choses dans son comportement qui je me dis waouh, c'est pas le mec en pleine confiance que j'ai connu. Bon, il y a eu ça revient sans arrêt de blessure, il y a pas de problème, mais il joue pas son poste. Donc je vais mettre ça sur le fait qu'il joue pas son poste pour ce cas précis, mais
après, est-ce qu'on a vu pas mal de fois cette saison Christensen et Araujo en même temps?
Tu as un début de saison monstrueux de Koundé fait que tu ne peux pas le mettre sur le banc de touche. Tu peux pas, il figure parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde, de Liga sans souci, donc tu peux pas trop te permettre. Christensen, on sait qu'il est précieux sur la relance, on sait qu'il est propre, il fait pas de bruit, c'est...
Bah, il t'apporte ce que les autres ne t'apportent pas offensivement, on va dire, sur cette transition, tu vois. Il est, tu vois, balle au pied, le mec, il est exceptionnel, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire.
Mais bien sûr, parce que tu vois, à la roue, à la relance, il faut encore bosser, tu vois. Il est
mais par contre, attends, oui, il faut quand même bosser, mais il y a quand même, entre le Arojo 2020 où il arrive,
il a énormément progressé.
C'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. Donc après, voilà, moi, je voulais juste terminer, frérot, que je sens un réel changement de cette équipe depuis la blessure de Frankie. Voilà. Je pose ça là. Je pense que beaucoup seront en accord avec moi là-dessus. D'autres peut-être moins, mais je vais laisser Médard s'exprimer maintenant. Mais Frankie, revient vite.
C'est ça. C'est vraiment... on en reviendra. On reviendra dessus. Ça, Médard ?
Ouais, ça va, tranquillou. Hein. Écoute,
ouais, tranquille.
Ça fait longtemps. bah écoute, que dire ? En fait, qu'ajouter par rapport à ce que Gurvan l'a dit et même toi qui as complété, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas en vouloir aux gens qui en veulent à Xavi. Ni, enfin, j'aime pas l'acharnement, mais je peux comprendre aujourd'hui que certains soient déçus de ce que Xavi nous apporte. Moi, j'étais beaucoup dans le oui. C'est vrai qu'il y a des blessures, etc. Et c'est réel. Parce que depuis la blessure de Frankie de Jong, et même la saison dernière, c'est là où tu prends un 4-0 par Madrid. C'est là où... En fait, Frankie de Jong, c'est le joueur qui t'apporte de l'équilibre dans ton équipe. Mais au-delà de ça, c'est aussi ton meilleur joueur. Donc, en fait, tu perds doublement. T'as, niveau transition, on se fait tuer. Même quand dans le contrôle du ballon, on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le jeu de Xavi par l'absence de Frankie de Jong, mais malgré tout, j'ai du mal à tout cacher par ça parce que on a un profil, certes, c'est pas De Jong, mais en tant que numéro 6, je trouve que Gundogan fait vraiment l'affaire, personnellement.
Il fait le taf, ouais.
Ouais. Après, c'est vrai qu'on a un milieu assez jeune, mais malgré tout, ce qu'on propose, notamment contre la Real Sociedad, c'est pas normal. Quand tu vois ce que tu as été capable de proposer avec ce milieu de terrain face à Madrid la semaine précédente, même si tu perds voilà, bêtement, quand tu vois ce que tu as su proposer et ce que tu me fais derrière contre la Sociedad, il n'y a aucune excuse. Ce qui s'est passé, c'est un hold-up total. Mais au-delà de ça, on s'est fait tuer, on s'est fait ouvrir. Mikel Merino, Kubo, Barrenetxea, etc. Ils nous ont tués.
Bryce Mendes,
Zubimendi.
Bryce Mendes, frère.
Voilà, oui, vraiment, les Zubimendi nous ont tués. Donc, en fait, c'est pas normal. Et ça, c'est à mettre au crédit, je sais pas si on dit au crédit du coup, mais c'est à mettre sur Xavi, c'est de sa faute, concrètement, c'est de sa faute.
Ah, c'est de sa faute, mais tu vois, moi, j'en parlais un peu hier sur Twitter, pour moi, vraiment, ce système d'avoir mis Cancelo devant et Araujo, et que tu continues comme ça en seconde mi-temps, et que tu ne sortes pas Araujo, ou même Inigo, ou je ne sais qui, et que tu ne replaces pas Cancelo à droite, à son poste, pour moi, c'est une erreur, mais c'est vraiment une erreur de débutant. Bah, tu ne peux pas faire ça, frère.
Déjà, il y a un souci.
Tu ne peux pas venir et sortir.
Il y a un souci dans la
défense. Pour moi, ça... Bah oui, non, mais ça, c'est clair. On n'est pas habitué à jouer une défense à 3, ou du moins sur l'animation, bah, peut-être que des fois, oui, on était en défense à 3 la saison dernière aussi, on va dire, mais c'est plus en animation. Là, c'est vraiment full défense à 3, mais... Pour moi, c'est un débile. Mais c'est un débile de pas avoir remplacé Cancelo.
Mais au-delà de ça, pour moi, il y a plusieurs problèmes avec la défense à 3. Déjà, il y a un souci de nombre. C'est-à-dire que sur le banc, t'as Christensen, et ensuite, t'as personne. C'est, je veux dire, donc déjà, tu gaspilles, entre guillemets, enfin, tu gaspilles l'énergie de 3 centraux, sachant que t'en as qu'un seul en backup, c'est très, très... C'est très très c'est pas une bonne chose. Au-delà de ça, dans l'animation, je pense pas qu'on ait besoin de 3 défenseurs. On s'est quand même mangé des vagues malgré tout. Donc est-ce que c'est vraiment la solution? Je pense pas. Pour qu'au final Araujo finisse latéral, c'est pas non plus la solution. Et en plus de ça, pour jouer avec des pistons, donc c'est une défense à 5 dans l'animation. Et tes pistons redescendent. Et Cancelo, c'est lui qui fait c'est lui qui fait l'ailier. Alors il est très bon, hein. Mais Cancelo n'est pas un ailier. J'ai pas envie de demander à Cancelo de percuter, de dribbler, d'éliminer et d'aller centrer. Enfin, et même Baldé, hein, parce que Baldé, c'est pareil.
C'est vraiment c'est pas caricatural au bout d'un moment.
Si.
De se dire, bah, c'est bon, j'ai des latéraux qui sont très offensifs, bah, je les mets ailiers.
Ouais, mais non.
Frère, ça marche pas comme ça. Sinon, ils auraient été ailiers déjà dès le début, frère.
Cancelo, je préfère tellement dans ce rôle de latéral intérieur qui rentre au milieu de terrain, qui vient accompagner Gundogan, par exemple. Et,
oui, largement.
Et voilà, et qui défend à droite en sans ballon. Je le préfère 1000 fois là-dedans que de lui demander de faire le piston, comme s'il était encore à Valence. En 2015, tu vois. Donc, Déjà, il y a un gâchis.
Non, ça n'a aucun sens.
Il y a un gâchis. Il y a un gâchis au niveau des latéraux, parce que Baldé, c'est pareil. Tu peux pas lui demander de partir, d'éliminer et ensuite faire ça, parce que déjà, il a une baisse de forme. Mais au-delà de ça, même l'année dernière, c'était compliqué. Et Cancelo, voilà, c'est même plus son poste en fait, piston. Et la défense à 3, pour moi, il y a pas lieu d'être. Deux défenseurs, c'est largement suffisant. Mmh. Koundé Araujo, c'est assez solide. Inigo est très bon. Christensen est très bon. Il y a de quoi faire tourner. Je veux dire, et tu perds un ailier en fait. Quand t'as Rafinha qui a
mais j'ai l'impression,
temps, c'est pas normal.
C'est pas vous, hein. Je vous pose la question à vous deux. Mais pas l'impression que Xavi n'arrive pas à se mouiller. Il n'arrive pas à se mouiller sur qui titulariser. Je pense qu'il a, je sais pas. Au bout d'un moment, faut choisir.
Il frère. A des choix de riche, pas jouer à... C'est la première fois qu'il a des choix de riche.
Ouais, il a.
Et
ouais, mais bon, au bout d'un moment, tu.
Bah, c'est là où tu vas voir si tu prends de l'expérience, en fait. C'est là où tu vas voir.
Bah ouais,
si
au bout d'un moment, faut que tu prennes des décisions.
Un grand meneur d'homme. Et pour l'instant.
Bon, ça, la dernière émission. Regarde, Médard, la dernière émission. Même, je me rappelle avec Gervain, on en parlait. On parlait de qui va être titulaire au milieu de terrain, Pedri ou qui, on ne sait pas. Mais frère, t'es bon, tu joues. Après, oui, quand t'as tout le monde qui est bon, ok. Mais alors, bah, pour Gurvan, par exemple, bah, alors, il est pas, c'est pas le même que l'année dernière, bien que moi, je trouve que ça va. Mais avec le début de saison Koundé et Christensen, pour moi, il mérite d'être titulaire tout le temps. Là, il y a aucune raison d'avoir mis Inigo, Koundé et
alors. Je pense qu'il a peur pour Christensen.
Ça n'a aucun sens.
Je pense qu'il a peur pour Christensen, parce que c'est vrai que début de saison, même pré-saison, il a quand même beaucoup enchaîné les blessures où il sortait à chaque fois à la 45e, tu vois. Et je pense qu'il a peu peur, et Inigo, il enchaîne malgré tout, il enchaîne bien. Donc c'est bien de lui donner cette confiance. Après, oui, pour moi, là, actuellement, au vu de nos défenseurs et leur niveau, si tu dois prendre une charnière à deux, la charnière, c'est Koundé Christensen actuellement. Pourtant, mais Araujo, est-ce qu'il est relevable à Araujo aujourd'hui? Est-ce que tu peux le retirer de ton 11 à Araujo? C'est ça la question.
Mais est-ce que Koundé, tu peux le retirer du rose? Est-ce que Christensen, tu peux le retirer du rose?
Pour moi, c'est celui qui est le plus apte à sortir du 11. Pour moi,
c'est l'élément moteur.
Je suis d'accord.
Surtout dans l'absence de Frenkie de Jong pour te faire cette transition. Et il n'y a personne d'autre. À part, on va dire Gundogan, ok, peut-être. Mais pour moi, Christensen est tellement important.
Mais surtout dans une défense à 3, il ferait le travail. Lui, où il montrait entre les.
Ouais.
Tu sais, il se placerait entre les centraux et il montrait faire le 6. Pour moi, ça, ce serait une bonne chose. Mais une défense à 2, pour moi, je
crois que tu me diras, Inigo.
Parce que c'est dur. Ouais. C'est un de tes piliers aujourd'hui. Tu peux pas. Tu vois, c'est si Pedri a une baisse de forme, tu peux pas l'enlever. Ça, malheureusement,
pour moi,
c'est compliqué.
Pour moi, on peut enlever.
Bien sûr. Si tu peux pas, c'est.
Parce que on est. Oui, oui. Mais en mode. Moi, je pars du principe. Et Gervain, je veux bien t'entendre de ton avis dessus. Moi, je pars du principe. Que, ok, on est peut-être un Barça, on revient d'une longue période et tout ça, mais t'es le Barça, frère. Au bout d'un moment, on a des résultats à avoir. Donc, c'est des joueurs qui sont pas contents. Bah, écoutez, frère, vous démerdez à être meilleur. On demande maintenant, là, l'exigence, il est au maximum. L'année dernière, j'étais moins dans ce point de vue d'exigence maximale parce que je me dis, ouais, on a eu beaucoup de blessés, c'est une saison compliquée. Puis, le pragmatisme, on s'en fout, faut l'avoir. On s'en fout parce qu'il faut avoir cette putain de Ligue 1. Par contre, là, par contre, il va falloir se bouger le cul. Parce que là, on demande le meilleur de tout le monde. Donc, il n'y a pas de « je peux me permettre d'être moins bien sur un match ». Ça ne marche plus. Et c'est là où c'est positif aussi d'un côté pour Barça. Parce que tu vois cette transition où tu commençais là, cette reconstruction, bah, je pense que tu es en train de la terminer. Tu vois, parce que tu ne peux plus te permettre de dire à des joueurs bah, « on accepte que tu sois moins bien ». Comme on avait accepté avec Piqué il y a quelques années, tu vois. Ou Busquets, tu vois, ou Jordi Alba. Voilà. Je ne sais pas comment vous vous positionnez sur ça, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout.
Moi, je trouve que on a deux Barça à chaque fois. On a un Barça avec des problèmes de riches, à savoir quand ta charnière est rayonnante comme Christensen Koundé, qu'est-ce que tu fais d'Araujo? Tu le mets latéral droit et tu sacrifies Rafinha et tu mets Cancelo un cran au-dessus. Voilà, ça, c'est ta solution de facilité. Mais à côté de ça, t'as aussi des problèmes de pauvres. Dès que t'as plein de joueurs qui sont blessés, t'as un enchaînement de galères. On sait très bien que nous, on adore les enchaîner, ces galères. Il y en a un qui se blesse une semaine après, c'est un autre. Généralement, c'est des joueurs qui sont titulaires, c'est les piliers de l'équipe. Donc, on est confronté à deux différents soucis. Maintenant, le choix, ça appartient au coach. Pour moi, il fait des erreurs encore. Contre le Real, il fait une très grosse erreur. Contre la Sociedad, je n'arrive pas à lire son plan de jeu, à lire ses changements, je ne les comprends pas. Mehdi, on en a parlé, toi et moi, sur le but d'Araujo. Tu me dis, ouais, il aurait dû être placé dans l'axe. Cancelo qui reprend sa vraie place de latéral droit. Je t'ai dit, pas de souci. Sur le fond, je te rejoins à 2000%. Mais le fait que tu laisses Araujo latéral droit, ça lui permet de monter en fin de match et mettre son coup de tête. Peut-être qu'il l'aurait fait en étant défenseur central aussi. C'est le seul truc où je me dis, bon, ok, il a peut-être eu raison sur ça, mais si j'analyse le fond de jeu, je peux pas. Je peux clairement pas valider le choix, je peux clairement pas valider ce que j'ai vu, le spectacle proposé. C'est une très belle équipe, grand respect à eux. Mais merde, on est le Barça quand même, tu vois. J'aime pas ce « on est le Barça » parce que ça veut tout rien dire. Quand on est le Barça, c'est « on est le Barça de Pep » dans la tête des gens. Non, mais on est le Barça quand même, on doit se respecter un minimum de par l'histoire qu'on a dans ce sport qu'est le football, tu vois. De par notre identité, de par l'image que les gens ont de nous à l'étranger. Le jeu, là, on se fait boire sur la possession, sur le pressing, sur les sorties de balles. On s'est pris une leçon tactique. Notre milieu, on l'a pas vu exister. Alors que Médard l'a très bien dit, une semaine plus tôt auparavant, tu arrives avec des minots qui te donnent une leçon sur 45 minutes, voire 60, face au Real, qui était leader ou deuxième de Liga. Enfin, j'arrive pas à comprendre le double visage qu'on affiche en si peu de temps. Je pense que cette défaite nous a mis une claque au moral. La confiance a été perdue, mais on doit réagir. On ne peut pas rester comme ça dans le flou. On ne peut pas se le permettre, en fait.
En fait, c'est honteux dans le sens où la Real Sociedad, c'est une équipe, on la connaît, qui joue. Elle accepte le jeu et elle n'est pas dans cette idée de rester ou je ne sais quoi, où ça va refuser complètement ce jeu-là. C'est à ce moment-là où nous, on doit profiter, jouer. Pas toujours ce contexte. Tu vois, pour moi, le truc de troisième, truc à trois défenseurs, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est ces matchs-là à trois défenseurs centraux, tu le mets quand t'as Vinicius, ou tu sais, quand t'as des matchs où on sait que t'as des ailiers en face qui vont venir te perturber, tu vois. Là, il y a aucun sens d'avoir fait ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si vous avez, pour vous, vous pouvez trouver la logique derrière pourquoi avoir mis Araujo latéral droit et Cancelo ailier droit.
Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune parce qu'il joue avec Oyarzabal. Et c'est pas un neuf. Donc déjà, qu'est-ce que tu vas foutre trois centraux quand t'as pas de neuf en face? C'est pareil contre le Real. Bon, il y a un Vinicius et tout qui est assez dangereux, mais pour moi, jouer à trois centraux, ça n'a aucune utilité parce que tu joues contre des équipes qui jouent même pas avec un neuf. Les centraux, c'est ceux qui sont quand même censés gérer l'axe. Enfin, c'est la base, c'est dans le centre, quoi. Et dans le centre, il y a quoi? Il y a un numéro 9, normalement. Mais là, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre Araujo, Koundé, Inigo, pour que Cancelo, il fasse l'ailier? Je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée. Tu te prives de Rafinha ou de
Yamal. Pour moi, c'est vraiment... Il a dit comme un putain de débutant.
Je sais pas.
Un putain de débutant. Oh, t'as affronté des gars comme Carlo Ancelotti, ouais. T'as même affronté Pep aussi, l'année dernière, on avait vu un match amical et tout ça. T'as affronté, bon, c'est pas les mêmes joueurs, ok, mais t'as pu côtoyer des entraîneurs de haut niveau. Qu'est-ce que tu vas me faire une compo de merde comme ça? Et encore heureux hein, qu'il n'ait pas mis Roméo, hein, parce que là, on aurait eu la totale, hein, parce que, ok, là, on peut prendre du temps sur Roméo, où on peut tous se dire, maintenant, il a pas... C'est nul. C'est nul. Alors là, on a été honnêtes tous ensemble, c'est qu'on a dit on lui laisse le temps. Là, je pense qu'on est en novembre, on peut au moins faire une petite conclusion sur se dire est-ce que ce mec-là est au niveau pour Barça. Et c'est non. C'est non. Non, frère. Pourquoi? Il n'a rien.
Moi, je suis pas d'accord, Mehdi, parce que qu'il est nul. Non, sincèrement, si on est très honnête, il fait un début de saison plus que correct. Il fait un début de saison plus que correct, il dépanne.
Non, pas plus que correct.
Sincèrement, pour une recrue à 3 millions, un joueur de stage là, je ne m'attendais pas à un truc de fou, tu vois. Mais je me dis, bon, il rentre, il fait le taf, sincèrement, sur plusieurs matchs, il a fait le taf. Tu ne te projettes pas avec lui pour l'avenir, pas de souci. Mais à l'instant présent, tu n'as pas de thune, tu es obligé de composer avec lui qui t'a coûté que 3 millions. Tu as été obligé de vendre caissier pour derrière pouvoir ramener Cancelo et Joao Félix. Fallait absolument faire rentrer de l'argent parce que si tu me demandes à choisir entre Kessié et Roméo, il n'y a pas débat. Sauf que derrière, tu as un équilibre à respecter, tu vois, pour ta balance financière. On sait très bien les problèmes financiers qu'a le club. Derrière, je me dis 3 millions, l'âge qu'il a, début de saison plus que correct. Il a fait des choses plus que correctes. Il nous a montré techniquement qu'il était capable de choses plutôt intéressantes. Certes, il jouait simple. Contrôle, j'oriente, je passe, pas de souci. Mais au final, est-ce qu'on a besoin de plus à ce moment-là? Non. Derrière, par contre... Dès que t'as l'hymne de la Ligue des Champions qui sonne dans les gradins, le mec décomposé, tu sens qu'en termes de confiance, bah, il se chie dessus, en fait. Là, il n'y a pas de souci, il est clairement mauvais, il n'est pas au niveau. Mais je trouve que c'est un peu la cible facile. Tu vois, et à chaque fois, tous les ans, je trouve qu'on cherche un seul fautif. Faut taper sur un seul mec.
Non, parce que là Xavi est également fautif. Parce que sur les matchs avec Xavi, peut-être une fois, tu vois qu'il n'est pas, il fait pas le boulot, tu le remets pas. Et puis on a fait des matchs. Le premier match, on a mis Gundogan, Gavi et cette équipe, peut-être Franky ou même Fermin. On a vu que ça marchait plutôt bien. Mais continue. Maintenant, lui, il va te remettre Romeo. Alors qu'on sait que ça ne marche pas.
Sur ça, je suis d'accord avec toi. Sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, quand on parle de Romeo, à l'heure actuelle, faut prendre en compte que tu as Pedri qui était blessé. Là, il revient génial. Tu as Franky qui est blessé. Donc, derrière, tu es avec des bambins comme Gavi qui ne cesse d'enchaîner les matchs. Fermin qui débute, tu vois, qui découvre tout ça. Tu es obligé de le préserver. Tu vas pas le faire jouer 90 minutes tous les 3 jours, sinon on sait à quoi tu t'exposes. On l'a vu avec Pedri. Maintenant, tu es obligé d'être dans la gestion. Tu fais des choix, tu regardes ton banc de touche. Malheureusement, Romeo, il est là. Il n'est pas en confiance.
Sauf que là, il y a un problème. C'est qu'on l'a bien vu contre le Real Madrid, par exemple. Il est rentré.
Oui, entièrement d'accord. À l'heure de jeu, le match bascule à son entrée. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci.
Mais donc là on est dans un gouffre. Parce que s'il faut faire tourner les joueurs et qu'en fait, on repart sur la problématique de l'année dernière qui est de je fais des changements et donc du coup, quand les joueurs qui rentrent, la différence de niveau entre les titulaires et les remplaçants, c'est normal que les remplaçants soient peut-être moins bons. C'est même logique, on va dire. Mais qu'il y a un tel gap de niveau.
Oui, complètement d'accord. Mais moi, je peux pas l'accepter. Dans ce cas-là, quand Franky et Pedri sont blessés, on part du principe qu'il ne fait plus rentrer Romeo. Ça veut dire Gavi et Fermin qui enchaînent tous les 3 jours 90 minutes. Ils vont être blessés. Qui c'est que tu vas accuser en premier ? Gavi, Xavi, parce qu'il ne fait pas de remplacement. Tu vois, c'est toujours le même problème au final. On en revient sans arrêt au même truc. Là il est.
Non, tu sais, j'accuse qui ? J'accuserai qui ? J'accuserai Pedri et Franky.
Merci.
Non, mais moi, je suis honnête sur ça. Romeo, tu vois, c'était. Parce que nous, on a parlé dans mon podcast, on avait dit Romeo, parce que beaucoup l'ont critiqué parce qu'on ne le connaissait pas et personne ne regardait le match à Zéron, on a vu peut-être deux, mais enfin. On lui laisse 3 mois. Moi, j'ai laissé 3-4 mois pour voir un peu de flottement. Comme Bellingham, je laisse au Real Madrid, parce que tout le monde vient top. Tu vois, il n'y a rien à dire. On attend 4 mois et on juge. Mais par contre, là, au bout d'un moment, on arrive à une période où tu as des joueurs qui se blessent tout le temps. Tout le temps, et on ne peut pas remettre la faute que sur Xavi ou même que sur Romeo parce qu'il est pas bon, mais si Romeo il joue,
c'est parce que t'as des joueurs blessés,
parce que toi t'es pas là,
bien sûr. Et tous les ans tu as ces joueurs blessés, donc on peut accuser le staff, on peut accuser Xavi, on peut accuser Pierre-Paul Jacques, peu importe, mais au final quand on analyse les choses, t'es obligé de prendre ça en compte dans l'équation. Si tu veux, tu peux pas juste venir et balancer Romeo t'es nul, Xavi tu fais des choix de merde. Non, il y a tout un contexte à prendre en compte. Une fois de plus, le mot contexte ne plaît pas quand on l'emploie dans cette communauté, mais on est obligé de remettre les choses dans le contexte. Parce que tu ne peux pas juste dire tel joueur est bon, tel joueur est nul. Non. Pourquoi tel joueur joue ? Tu viens de le dire, parce qu'il y a des blessés. Pourquoi ils sont blessés ? La faute à qui ? Hygiène de vie, staff, coach. Moi, il y a une chose qu'il faut pointer du doigt, et j'espère que les joueurs vont le dénoncer de plus en plus. Il y a beaucoup trop de matchs qui s'enchaînent. Et c'est très bien. Pour moi, le corps a besoin de se reposer. Ça fait partie de la prépa physique. Quand tu parles de prépa physique, tu as également le repos à prendre en compte, mais qui aujourd'hui est négligé pour des histoires de droits TV, des histoires d'argent. On veut jouer tous les 3 jours. Au final, on en finit par être lassé du football. Tu vois, on veut regarder de moins en moins de matchs parce qu'il y a tellement de matchs qu'on n'en peut plus.
Ouais, mais ouais. Durvan, sur ça, moi, le truc du calendrier, il a aussi bonne mine. Dans le sens où les joueurs aussi, ils se plaignent tout le temps du calendrier, mais quand on leur dit bah, « faites moins de matchs, mais vous prenez moins », je te jure qu'ils ne le font pas. Donc au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. C'est soit tu acceptes, tu fais autant de matchs et tu prends le risque de te blesser et c'est chiant pour tout le monde, soit tu acceptes de jouer moins et tu baisses ton putain de salaire. Mais ils ne le feront pas. Non, ils ne le feront pas. Donc au bout d'un moment, là, nous, en tant que supporters, nous en fait, on est en train d'en pâtir en se disant « putain, mais on sait qu'il y a trop de matchs, on voit qu'il y a des blessés, c'est pas normal que Pedri soit blessé tout le temps, que Frenkie de Jong soit blessé, Koundé, Christensen, ça fait beaucoup, donc tu peux pas mettre le dos, si tu peux mettre ça, tu peux mettre sur le dos de la prépa physique, mais quand t'as la moitié de l'équipe, normalement, et que t'as tous les autres clubs qui souffrent des dizaines de blessés, tu vois Chelsea, tu vois Arsenal, tu te dis « ouais, non, il y a un problème mais, ». Mais ces joueurs-là, tu penses que ça fait combien de temps que le calendrier est comme ça ? Ça fait 4-5 ans maintenant. Ils ont 4-5 ans pour se révolter et parler. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent que ça va toucher à leur argent et ils ne veulent pas.
Donc, nous, on parle en tant que passionnés qui aiment le club et on voit quand ces éléments-là manquent, on joue moins bien, potentiellement on gagne moins de matchs. Mais eux, ils regardent leur
portefeuille.
On ferait la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes aussi. Tu vois.
Mais Mais au bout d'un moment, c'est là aussi où pourquoi il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, bah, le foot, ça commence à casser les burnes, parce que t'as des joueurs qui en ont plus rien à foutre de ce sport. Ils en ont plus rien à foutre. Alors, tu vas me dire qu'à l'époque, oui, t'as les Ronaldinho, ils venaient jouer au foot, mais c'est la rigolade. Mais c'était ça, le football. Ils venaient, ils rigolaient. Ben, ils étaient, le soir, ils étaient en boîte, le lendemain, ils faisaient des malades. Ouais, ils s'en foutaient, ils en avaient rien à foutre. Mais ils avaient ce feu en eux. Là, aujourd'hui, je joue pour l'argent. Bah, va te faire foutre. Bah, va te faire foutre. Et après, par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie, parce que eux, ils arrivent et ils vont te faire des. Kevin De Bruyne, il me semble qu'il avait fait un truc comme ça où il avait parlé, il disait, ouais, il y a trop de malades l'année, mes frères. Il y a trop mal dans l'année, mais va te plaindre. Prends tous tes coéquipiers de City, va parler avec eux, tu leur dis, bah écoutez, les gars, on fait une grève. Jürgen Klopp, il avait dit ça aussi. Hein. Il avait dit, bah dis toujours de faire grève. C'est à eux de faire ce changement. Non. Ils le font pas. Il y a une raison. Médard, toi, t'es comment sur ce thème-là, pardon?
C'est un peu pareil que tout le monde. Déjà, je fais une parenthèse. Auriel Romeo, il est nul. Hein. Je vais pas développer, puisque je réagis à ce que tu me dis. Auriel Romeo, moi, je... Bah, si tu veux que je développe, Auriel Romeo, moi j'ai vu sa pré-saison, il m'a plu quand même, parce que je me suis dit, bon, c'est pas le bourrin qu'on nous a vendu, tu vois, il savait faire quelque chose, et je trouve qu'il a, malgré tout, il a un très, très bon jeu long. D'ailleurs, sur le premier but de Félix, c'est lui qui lui met une très très belle passe. C'est un joueur qui a du pied, parce qu'il est quand même formé à la Masia, mais je le trouve trop lent dans ses choix, et ça, tu peux pas faire ça. Quand tu joues dans un jeu de position et que t'es le numéro 6 en plus, censé être la rampe de lancement, et qu'on peut même pas s'appuyer sur toi, il y a un gros problème, parce que t'as l'impression de jouer avec Araujo au milieu. Mais en plus de ça, il a du mal à défendre aussi. Donc non, moi c'est nul, et y avait des solutions pour moi. Je trouve que Nico Gonzalez aurait été plus logique. Bon, Marc Casado, il a fait quelques entrées l'année dernière, je vais pas faire celui qui suit la Masia, mais j'ai entendu que du bien de lui, et il a fait que des bonnes entrées, même cette année, il me semble qu'il est entré une fois et il a fait une bonne entrée. Pour moi, c'est des joueurs qui auraient pu faire le taf, même si 3 millions, c'est pas cher. Pour moi, on avait des joueurs qui auraient pu faire au moins ce qu'il fait, voire mieux. Donc ouais, non. Je Auriel Romeo, moi, merci pour ton du bled, hein, mais genre. Et pour parler de ce dont on parlait à la base par rapport au nombre de matchs, etc. Je pense que ça nous fait tous, ça nous embête tous en fait. Ça nous embête tous. Il y a trop de matchs en fait. Moi, j'en parlais avec Gurvan hier. Dortmund-Bayern, qui est un match que je loupe jamais, j'ai eu du mal à le regarder. Je l'ai regardé une mi-temps, à moitié, et j'ai enlevé. Je me suis dit, bon, il y a plein de matchs comme ça, même la Première Ligue, j'ai du mal. En fait, je regarde le Barça, et pareil, même eux, ils commencent à m'embêter. Parce que déjà, il y a trop de matchs, et du coup, ça impacte aussi la qualité de ces matchs. Et puis, au-delà de ça, on va parler du... C'est devenu un football beaucoup moins... Alors, on adore la tactique, hein, on adore le côté tactique, c'est bien, mais c'est en gros, du coup, c'est beaucoup plus les coachs qui priment plutôt que leurs joueurs. T'as plus ces joueurs qui font la différence comme à une époque. C'est beaucoup plus un jeu d'échecs et tu dois déjouer le plan de ton adversaire. Et du coup, voilà, c'est des matchs tactiques, peut-être avec moins de saveur tous les 3 jours. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs.
Mais d'ailleurs, tu sais, excuse-moi de te couper, j'ai un truc qui me passe par la tête et je me dis, est-ce que Pep Guardiola n'est pas responsable de ça? Est-ce que ça serait fou de dire que Guardiola, il est quand même en partie responsable de ce foot qui a changé? Je ne sais pas si c'est fou de dire ça ou c'est complètement con, mais il est arrivé sur ce foot, ce nouveau foot avec le Barça, où voilà, c'était bon, on va pas retracer le Barça. Et puis aujourd'hui, il est plus dans une approche, il mélange aussi ce pragmatisme dans son jeu. Notamment, le match qui me vient à la tête, c'est demi-finale contre le Real Madrid, là, à l'aller, où il est très pragmatique, tu vois. Il sait, tu vois, il joue, il veut pas jouer, il sait.
Bah, moi,
il sait
comment ça va. C'était un autre match. La saison dernière, ils ont joué à Arsenal.
Dis-moi.
Et ils ont laissé le ballon à Arsenal. Et je me suis dit, putain, mais si on m'avait dit ça en 2012, si on m'avait dit que Guardiola, un jour, il laisserait le ballon intentionnellement à l'adversaire, j'aurais jamais cru. Donc, en fait, Guardiola, c'est peut-être sa faute, oui et non, parce que c'est sa faute d'être le meilleur dans ces tacticiens qu'on a vus dans les années 2010. Mais aussi, au-delà de ça, c'est peut-être l'un des seuls qui tente autre chose. C'est marrant, parce que Guardiola, c'était le mec était devenu une caricature, notamment en 2012, où les gens en avaient presque marre du Barça, parce que c'était des 80% de possession, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup stérile parfois. Et les gens disaient en avoir marre, et même lui, il avait fait son temps ici. Et c'est marrant qu'aujourd'hui, c'est lui que tu vois inventer. C'est pas les autres. C'est lui que tu vois inventer. C'est lui que tu vois venir avec trois défenseurs centraux, dont un qui est latéral, l'autre qui monte entre les milieux. Et tout le monde essaye de faire pareil aujourd'hui. Le latéral inversé, Liverpool, ils le font. Nous aussi, on le fait. Bon, nous, on le faisait déjà sous Pep, mais pas de cette manière-là, tu vois. Mais tu sais, t'as beaucoup, beaucoup d'équipes. Et puis même, tu regardes les gens, même sur Twitter, quand ils te font des schémas, des pour la saison prochaine, je veux ce 11, et qu'ils te mettent un latéral au milieu. Enfin, c'est Guardiola qui a ramené ça. Et c'est marrant que ce soit toujours lui qui invente.
Comme il avait fait avec le faux neuf.
Mais ça, le faux neuf, aussi, bah, le faux neuf, ouais, clairement. En tout cas, avec Messi, ouais, la nouvelle génération de faux neuf, c'est lui. Bah, donc,
il a mis Fabregas aussi après.
Non, mais oui. Donc, en fait, c'est lui qui a fait en sorte que ce soit comme ça, mais c'est quand même lui qui fait en sorte qu'on essaye de trouver autre chose, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont des caricatures. Ouais. Et pour l'instant, de ce qu'on voit de Xavi, même si parfois c'était bien, Xavi, parfois, quand il tente de faire ça, c'est de la caricature. Tu vois, bah on en parlait au début. Xavi,
il prend un peu pour le génie.
Je ne sais pas si c'est pas un génie, mais en tout cas, il fait pas bien il utilise mal son génie, en tout cas. Si c'est ouais, un génie, il utilise mal son génie.
Bah, pour moi, je ne le verrais pas comme un génie.
Bah après, il a su faire des choses. C'est pour ça que j'ai un petit peu confiance en Xavi. Il a su faire. Donc ça me fait. J'ai déjà vu des intentions de jeu. C'est pas assez souvent, malheureusement. Et il est jeune. Mais si ça continue comme ça, de toute façon, voilà, faudra lui dire bye-bye. Mais de ce qu'il a montré, s'il arrive à le montrer de manière de plus en plus régulière, moi, je lui fais confiance, tu vois. Il a montré des gros matchs, en fait, quand même, Xavi, même si c'est pas à outrance. Et il a su, je veux dire, des 4-0, des trucs, il a eu des grosses périodes où ça jouait bien, tu vois.
Et même quand on a perdu, moi, le match contre
le Bayern. Même là, la première mi-temps contre le Real Madrid, c'est pareil. On est en train de les tuer. C'est juste qu'on manque de finition, on manque de... Voilà, on joue mal nos attaques, mais clairement, dans le jeu, on est très bon. On est capable, en tout cas, d'être bon. Mais il y a aussi des matchs comme la Sociedad.
Après, j'ai envie de vous poser une dernière question. Hier je parlais avec Nasser de
Bisolu.
On salue. Il nous disait, mais au bout d'un moment, il y a aussi les joueurs qu'il faut remettre en cause. Parce que c'est pas normal, et moi je me souviens aussi quelque chose, le manque de justesse technique, des contrôles que tu ne peux pas te permettre de rater, des frappes, même des intentions de jeu que tu ne peux pas te permettre d'avoir quand tu es au Barça et quand tu es des joueurs de ce niveau-là, de ce calibre-là. Je pense à des joueurs comme Phoenix et tout ça. Il dit, c'est vrai que Xavi a une faute, c'est vrai que dans la compo, bah voilà, il y a des choses à redire, ça c'est clair et net, c'est ses propos. Mais par contre, les joueurs, il ne faut pas les dédouaner de tout. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des contrôles que tu ne peux pas rater, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Vous en pensez quoi, vous, notamment sur Mazzara Sociedad? Parce que j'ai l'impression que ce Sociedad-là, ce Sociedad Barça, il a traumatisé beaucoup de gens. Et on a vu un Barça qu'on a pratiquement peut-être trop vu ou rarement vu de cette façon-là. Je ne sais pas comment vous positionnez dessus. Médard ou
Bah non, oui, clairement, je ne sais pas ce qui bosse à l'entraînement. Je ne sais pas aussi, il y a certaines choses que Xavi leur demande de faire qui ne me plaisent pas spécialement. Je pense à Lewandowski. Bon, je le répète à chaque fois, vous savez que j'adore ce joueur, mais il y a un gap entre ce qu'il était au Bayern et ce qu'il est aujourd'hui. Et même dans ses choix, il touche trop le ballon, tu vois. Je sais pas si Xavi lui demande ça, mais parfois il doit jouer en une touche. Même s'il redescend, tu peux jouer en une touche, mais lui, c'est toujours 3 touches, 4 touches. Pareil, c'est des contrôles trop longs. Je pense à lui parce que c'est un joueur de classe mondiale et c'est celui vraiment qui a régressé techniquement le plus, je pense. Après, si on doit parler de... Franchement... Techniquement, c'est vrai, il y a des soucis. Il y a des soucis chez certains joueurs. Même Gundogan, j'ai surpris rater des contrôles hier. Je me suis dit, mais oh, putain, c'est Gundogan, quoi. L'année dernière, il était encore à City, il loupait pas un contrôle. Donc, je sais pas ce qu'ils bossent à l'entraînement. Je sais pas si c'est eux qui se laissent aller ou quoi. Mais ça aussi, il faut le régler parce que c'est inquiétant. Et on va pas racheter des joueurs à chaque fois. Parce que lui, il devient moins bon et du coup, il faut un joueur qui sait faire des contrôles. Donc, je sais pas.
Après, c'est un risque qu'on a pris aussi. C'est un risque qu'on a pris à prendre des joueurs comme Gundogan ou même Lewandowski qui sont assez un âge avancé, tu vois, donc pour le football.
Ça se perd pas, mais ça, moi, normalement, moi, frère, un match, ça se perd pas, les contrôles.
Oui. Non, mais c'est clair que ça se perd pas. Mais le fait de renouveler plus vite que prévu, du coup, prendre des joueurs d'un âge avancé, c'est normal, tu vois. C'est dans la logique des choses. Mais moi, il y a un match, et du coup, je vais en parler maintenant à Gavan, mais un match, par exemple, comme le Shakhtar ou le Barça, techniquement, le nombre de pattes qu'on rate, le nombre de contrôles manqués, tu sais, il a défini la technique, c'est pas des jongles, c'est pas ça, c'est la passe à la vitesse où tu l'as fait, à qui tu l'as fait, comment tu l'as fait, tu vois, c'est ça avec la technique.
Mais nous, on est censé être le Barça, donc un club où, dans ton ADN, t'es la technique en soi. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Tu te poses des questions. Et puis ça, c'est pour moi, tout le mois d'octobre, tu résumes, même septembre, depuis le début de saison, c'est un Barça, c'est un manque de qualité, finesse technique. Je sais pas, Gurvan, toi, tu te positionnes comment sur, c'est quoi ton opinion sur ça?
Bah, techniquement, non, c'est clair que j'ai été ultra déçu. Après, ouais, franchement, affreux, très loin du. En plus, bah, Xavi, milieu par excellence. Donc, normalement, c'est la base, c'est l'essence même de son jeu. Tu sais, le milieu, la qualité technique, enfin, les relances propres, les contrôles, comme tu dis, Médard, Gundo qui rate des contrôles. Enfin, c'est pas normal. Après, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est toujours facile d'accuser le coach. Voilà, le coach ou un joueur qu'on n'aime pas. Il y a toujours des joueurs chouchous qu'on veut jamais remettre en question quand ils sont pas bons, tu vois. Malheureusement, il faut savoir le faire aussi. Mais je pense que chacun sa part de responsabilité. Typiquement, contre le Shakhtar, je pense que tu as une approche du match où tu te dis on est le Barça, c'est le Shakhtar. Entre guillemets, c'est humain, mais c'est pas bien, tu vois. Mais en gros, voilà, on est au-dessus, donc tu arrives avec une certaine nonchalance sur ce match. Derrière, tu te fais surprendre bêtement, en fait.
C'est pas la mentalité.
Le pire adversaire sur ce match, c'est toi-même, finalement. Tu vois.
Claire. Mais en fait, il y a plein de choses comme ça pendant l'ère de Xavi, là, même encore maintenant, où tu dis il y a des choses. T'es censé être quand même, tu incarnes le Barça d'avant quand même, Xavi. T'es une image, c'est l'une des plus grandes légendes du club. T'as une image à donner. Et t'as une mentalité à transmettre. Il y a des moments où tu vois une équipe qui mentalement a été transformée du côté positif. Et puis des fois, puis même, on sait que c'est pas un très bon communicant, mais même des fois dans ce qu'il dit, tu vois, je me rappelle le match en Europa League ou même contre United, il disait oui, bon, après c'est que l'Europa League, et un. Tu vois, une mentalité même comme Shakhtar où tu dis, bah, c'est que le Shakhtar, non.
Je vais te résumer ça.
Dis-moi.
Après le match d'hier, il a dit un truc du genre, gagner un match sans être bon, c'est une victoire en or. Une victoire de champion, tu vois.
Ouais, c'est pas le Barça.
Et là, j'aurais pu l'entendre la saison dernière, avec ce côté pragmatique, il nous faut absolument des points. Mais là, en début de saison, il nous a vendu, il a dit lui-même, que ça allait être beaucoup plus axé sur le jeu.
C'est du terrorisme.
Donc alors certes, ouais, mais complètement, t'as toujours des matchs galères, tu te souviens, j'aime bien le répéter, celui-là, Mascherano, à l'époque, t'es à Malaga, tu vas gagner, c'est compliqué là-bas. Ça, c'est,
et en oui, gros, t'as toujours des matchs
il vient comme ça. Te dire, c'est une victoire, elle est moche, mais elle va te permettre d'être champion. Il n'y a aucun souci. Mais là,
non,
c'est une victoire, mais c'est un hold-up, c'est un hold-up de fou. Dans le jeu, tu n'as rien du tout.
Surtout ces déclarations, je suis désolé de te couper. Hein. Moi, là, je vais en parler, parce que ça m'énerve. C'est marrant que tu en parles, c'est bien. C'est une insulte au Barça. Je suis désolé. Surtout quand tu t'appelles Xavi Hernández Creus, t'es l'âme du Barça, t'es le cerveau du grand Barça, t'es le mec qui incarne la Masia. Les valeurs que t'en sors, etc. C'est toi. En fait, j'ai l'impression que c'est de la provocation. Tu vois, c'est de la provocation de dire des trucs pareils, tu vois. J'arrive pas à concevoir que tu puisses dire un truc pareil quand tu t'appelles Xavi Hernández. C'est du terrorisme. Non, parce que, comme tu l'as dit l'année dernière, tu vas chercher des victoires avec les Burns. Il y a pas de souci. Que t'as un manque d'effectifs. Et même aujourd'hui, certes, t'as des blessés et tout, mais voilà. Là, on a dit c'est place au jeu. Il l'a dit lui-même. Donc, comment tu peux faire? Parce que moi aussi, évidemment, je me suis dit, si on doit en parler, il y a un truc à prendre, c'est que c'est une victoire que tu vas chercher au mental, parce que c'est ton défenseur qui marque sur une montée, etc. Ton gardien, il te fait un match de fou, il faut en parler, parce que je sais qu'on aimait taper sur lui. Mais quand il est bon, il faut le dire. Et le match de Ter Stegen, il est monstrueux. Et c'est grâce à lui, les 3 points, c'est lui et c'est personne d'autre. Mais malgré tout, il n'y a que ça à tirer de bien. Oui, victoire au mental. Mais me dire oui, victoire de champion, bah, peut-être que c'est ce genre de match qui va te faire devenir champion. Mais moi, ce que je veux, c'est du jeu qui te montre.
Fera les comptes
mais
à
c'est
la
ce,
fin.
Moi, ce que je veux, c'est voir justement quelque chose qui te montre que tu peux être champion. Tu vois, c'est pas des victoires que tu vas chercher à l'arracher et tu te dis oh, grâce à ces 3 points, j'ai été champion. Moi, j'ai envie d'avoir du jeu qui te permette de la continuité et qui te permette d'écraser tes adversaires pour être champion, justement.
Mais tu vois ce qui est dingue? Tu vois ce qui est dingue, c'est que j'ai plus l'impression d'être ressorti d'une défaite contre le Real Madrid et comment on a joué, comme en me disant bah putain ça, si on continue à jouer comme ça, on peut être champion, on peut la gagner. Que là, tu lui fais un match de merde comme ça contre le Real Sociedad, tu vas gagner. Et puis tu te dis oh on peut c'est un match de champion, c'est pas un match de champion ça, c'est un match de bâtard, c'est un match de bâtard. Et je le dis vraiment clairement, c'est un match de bâtard.
tu peux faire des matchs comme
mais
ça.
Mais tu sais, pour en revenir au débat initial que tu as lancé, quand je compare Xavi à son arrivée, la régalade, quand ça mettait, on enchaînait les quatre buts, tout ça, on avait affaire à un Xavi décomplexé, qui, dans tous les cas, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, sauf juste les meubles. C'est tout ce qu'on te demande. Aujourd'hui, c'est toi qui a gagné la dernière Liga, t'arrives avec une pression énorme. T'es attendu sur le jeu, t'es attendu sur les résultats, et
bien vu,
c'est un jeune coach. Est-ce qu'il a cette capacité à gérer cette pression? Beaucoup de coachs avec plus d'expérience en ont perdu des cheveux, en ont eu des cheveux blancs. C'est très compliqué, on va pas le redire, on l'a déjà suffisamment dit, c'est très compliqué au Barça, mais je pense que c'est quelque chose qui joue énormément qui pèse énormément sur ses plans de jeu, sur tout ça, puisque il nous a montré qu'il était capable d'avoir un jeu offensif très plaisant, même avec un effectif beaucoup moins bon que ce qu'il a actuellement. Mais là, aujourd'hui,
la période Luc de Jong, Adama Traoré, Aubameyang,
exactement. Tu m'excuseras, mais c'est moins bon que ce qu'on a aujourd'hui.
Mais pourtant, tu les avais pour les deux équipes s'affrontent, c'est celle-là qui gagne, c'est celle d'Adama Traoré. C'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant.
C'est inquiétant.
Parce que c'est des joueurs qui critiquaient quand même. Léo Aubameyang, etc. C'est pas son style de jeu. Quand tu penses à Xavi avant qu'il arrive, hein, parce que maintenant on en pense autre chose, mais quand moi Xavi, je me rappelle en 2014, je me disais lui c'est l'après Guardiola, tu vois. Lui il va avoir une petite transition le temps qu'il devienne coach, et lui ça va être lui, tu vois, le futur coach, tu vois. Bon, il se trouve que ça a l'air d'être Xabi Alonso, en tout cas pour l'instant. On verra plus tard, hein, mais Xavi, c'est pas ce que je vois ça de lui. Je vois pas ça de lui. Et je me suis dit, tu sais, quand il était joueur, il parlait d'Aubameyang. Il y avait une interview où on lui parlait d'Aubameyang et qui disait justement que c'était pas le type de joueur qu'il appréciait voir et que c'était pas le genre de joueur qui jouerait avec un Barça s'il était coach, tu vois. Il l'a pris, il en a fait un grand joueur, un grand attaquant qui est en galère aujourd'hui. Et qui est en galère depuis un moment. Donc il y a que lui qui a réussi à faire jouer Aubameyang. Il a fait jouer Luc de Jong. Je veux dire, c'est pas des joueurs auxquels tu penses quand tu penses à un potentiel système de Xavi qui devient coach. Et pourtant, et maintenant tu lui donnes des joueurs comme Lewandowski. Bon, évidemment, c'est Lewandowski, donc il a mis une vingtaine, trentaine de buts, c'est bien et tout, mais putain, c'est Lewandowski, mec.
Pour moi,
c'est Lewandowski, on parle d'un mec qui a fait une année à 65 buts, je crois.
Et Médard, au-delà de Lewandowski.
Non, mais oui, mais là, je faisais un comparatif d'attaquant, mais ouais, tu peux aller plus loin. Ouais, quand d'attaquant. Tu vois qu'il avait du mal à faire jouer Frenkie de Jong, alors que le mec, en fait, ça fait depuis 2019 que ça doit être notre milieu titulaire indiscutable, premier sur la feuille, meilleur milieu du monde, et que lui, il te le mettait sur le banc encore en 2022 parce qu'il préférait Busquets. Je suis désolé, mais ça, c'est des trucs que Xavi fait. Moi, je suis encore dans le train, si on doit parler comme un golemont. Je suis dans le train, Xavi, tu vois. Je suis dans le truc de me dire, voilà. Mais je petit à petit, voilà, je me dis, il nous perd.
Bon, on est même, c'est quoi? C'est même pas une question de train ou pas train, comme moi, je le dis souvent, ça me saoule.
Les gens dire,
t'es pro, Xavi, t'es anti-Xavi. Je m'en bats les couilles. Je suis pas pro ni anti. Ouais. Je suis Barça. Tu me dis, Xavi, moi, j'aime pas qu'on lui tombe dessus quand c'est pas valide. Pas me dire oui, et t'as la moitié de ton effectif qui n'est pas là, et tu dis, bah, il fait des matchs de merde. Oui, c'est normal, tu peux être le Barça, t'as la moitié de ton effectif qui n'est pas là, tu fais des matchs de merde. Mais par contre, dans le même temps, il faut arrêter de toujours le dédouaner, et de quand un match contre la Sociedad, il fait un match comme ça, alors que tu peux faire 10 fois mieux, c'est pas normal, frère. Moi, c'est cette vision d'avoir Araujo, latéral, et Cancelo, et Lié, pourquoi t'as acheté Cancelo si tu veux le mettre ligne? Tu finis le match avec Araujo, latéral, mais va te faire foutre.
Ah, c'est,
honnêtement,
c'est... Mais par rapport au pro ou pas pro, tu vois, moi je suis pas pro truc, tu vois. Moi je suis pro celui qui nous fait gagner, tu vois. C'est-à-dire que moi je suis pro Barça, comme tu l'as dit. Et Xavi, je lui souhaite du bien et j'espère qu'il nous fera réussir. Mais quand je parle de descendre du train, tu vois, c'est vraiment en mode petit à petit, comme tu as dit, il nous perd en fait. Il nous perd et je veux le bien du Barça. Et moi je commence à penser, en tout cas, je parle de mes pensées, je suis pas la Porta. Mais quand je commence à penser petit à petit que bah, peut-être que c'est pas avec lui l'avenir, tu vois. C'est pour ça que je parle de descendre du train, mais en soi, je suis pas pro un tel.
Tu vois, Médard, moi je pense pas que ça soit pas lui, tu vois, mais je me dis, en fait, tu as vu, c'est ça, c'est le problème, c'est que le samedi, il va te faire dire putain, mais il me fait chier, et le mardi, il va dire waouh, tu vois, et samedi pareil, oh nanana, et l'autre samedi, waouh. Tu sais pas sur quel pied danser. Donc un jour tu le critiques, puis en fait après t'es obligé de ravaler tes propos.
On peut juste dire qu'il est irrégulier.
Il a compris ce qu'il a fait.
Bah oui.
Il est trop irrégulier. Bah. Mais c'est trop, en fait.
Il est trop irrégulier.
C'est trop. C'est énervant. Les gars, ce soir, il y a le match contre le Shakhtar, le match retour. On va terminer l'émission sur un petit prono de votre part. Gurvan, à moins qu'il y ait une autre chose à nous dire pour.
Non, j'ai rien d'autre à dire. Tu me prends dépourvu. J'étais pas du tout parti sur ce prono. Non. Je sais pas pourquoi mon instinct me dit 2-1.
Mais pareil. La tête d'homme, pareil.
Je sais pas pourquoi.
Ça reste un match relou, même si, voilà, et leurs supporters, même si ce sera en Allemagne, ils sont que ça à Hambourg. Leurs supporters restent relous, tu vois, même si ce sera pas chez eux, ils vont faire le déplacement. Ils vont être relous, leurs supporters, eux, voilà, nous on connaît quand on n'est pas à domicile. Parce que c'est pas le souci de l'extérieur, nous, c'est le souci de pas être à domicile. Et pareil, je pense quand même qu'on va gagner, mais ça sera un petit 2-1 pour moi.
Puis une victoire du Barça signifie que
c'est quelqu'un en mais de toute façon, en vrai.
Il me semble. De toute façon, oui.
Tu me dis, on peut gagner 10-0 avec Xavi.
Bon, dire pour le coup,
tu vois.
Tu veux faire 10-0 et puis la semaine. Non, et attends, il y a une trêve après, non? Ou on a une autre.
Mais si, parce que ça parle de Pedri à savoir s'il va être convoqué ou pas, mais je sais plus c'est quoi les dates. Mais
comme qu'il y a une trêve, parce que Frankie revient le 25.
Il me semble.
Ouais, voilà.
Ah bah ouais, donc c'est Rayo, retour au Rayo Vallecano.
Chez eux?
Chez eux, 14.
Chez eux.
Retour de trêve, 14h, Rayo.
J'ai piscine ce jour-là.
Ouais. Oh là là. Moi j'ai piscine. J'ai hâte de voir aussi le nombre. On va prédire, on va demander aussi aux abonnés le nombre de blessés qu'on aura durant la trêve. Tiens. Parce que chaque trêve, c'est pareil. Donc autant prédire sur ça. Moi je pense qu'on aura 2-3 blessés.
2-3, mais très important.
Ouais, tu vois, ça va bien être Gundogan, Christian Senaro. Allez, hop.
Allez, voilà.
Il s'est mouillé. Pedri comme d'hab, chef, tu connais.
Voilà, merci, tu m'en mets un, hein, tu viens de ma part. Bon, écoutez, les gars, ça m'a fait super plaisir de revenir sur Mess Young Talk.
J'espère
que vous aussi, c'était une très très bonne émission.
Fortement.
Merci, puis on se retrouve. Eh ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Écoutez, on se donne rendez-vous, du coup, je pense, d'ici la semaine prochaine, pour un prochain numéro de Mess Young Talk. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.